Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous, le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du vendredi 21 octobre 2022. Plus de 50 personnes ont été tuées hier au Tchad. Les activités d'importants partis d'opposition suspendues et en couvre-feu décrété suite à des manifestations jeudi contre la prolongation de la transition de 2 ans et le maintien au pouvoir de Mahamat Idriss Déby Itno. Une bonne partie de cette édition sera consacrée à cette violence. Protestations également en Guinée. Démission de la première ministre britannique Liz Truss parmi les titres de l'actualité. En direct de Washington, Idrissa Sebulia. Au Tchad, des manifestations meurtrières ont fait hier une cinquantaine de morts à travers le pays. C'est ce qu'a déclaré le premier ministre Saleh Kebzabo, qui a aussi annoncé la suspension de toute activité d'importants groupes d'opposition et un couvre-feu. Le point avec Eric Manirakiza.
Le couvre-feu de 18h à 6h du matin va durer jusqu'au rétablissement total de l'ordre en N'Djamena, à Mundu, à Doba et à Koumra. Le premier ministre Saleh Kebzabo a prévenu que le gouvernement fera régner l'ordre sur l'ensemble du territoire et ne va plus tolérer aucune dérive, d'où qu'elle vienne. Des affrontements ont opposé hier des manifestants aux forces de l'ordre.
Pas le réel. Non à la bundocratie, oui à la démocratie. Voilà. On est prêt, déterminé, debout jusqu'à la fin. Voilà.
Tout a commencé par une manifestation interdite à l'appel de l'opposition contre l'extension de la transition et le maintien au pouvoir de Mahamat Idriss Déby Itno. Selon le porte-parole du gouvernement tchadien, cette manifestation interdite s'est transformée en insurrection. Les manifestants ont attaqué des édifices publics, le gouvernorat, le siège du parti du Premier ministre, celui du président de l'Assemblée nationale, a déclaré Aziz Mahamat Saleh. Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, a condamné fermement la répression des manifestations. Il a appelé les partis au respect des vies humaines et des biens et a privilégié les voies pacifiques pour surmonter la crise. Paris a condamné les violences avec notamment l'utilisation d'armes létales contre les manifestants. Les Nations Unies ont déploré le recours à la force meurtrière et demandé une enquête sur les décès. Les autorités de transition doivent garantir la sécurité et la protection des droits de l'homme, y compris la liberté d'expression et de réunion pacifique, a indiqué dans un tweet le Haut Commissariat des droits de l'homme de l'ONU.
Les États-Unis ont de leur côté condamné la violence au Tchad, se disant profondément préoccupés par les informations faisant état de victimes. Ils ont invité toutes les parties à la désescalade et à la retenue. Washington demande aussi dans un communiqué que l'on fasse rendre des comptes à tous ceux qui sont responsables de la violence et condamne l'attaque qui a eu lieu devant la principale entrée de l'ambassade des États-Unis, au cours de laquelle des assaillants en civil et des véhicules privés ont franchi les points de contrôle de la police et tué 4 personnes. Nani Talani vous donne la suite du communiqué américain.
Le porte-parole du département d'État, Ned Price, a condamné dans ce communiqué l'utilisation non autorisée de la propriété de l'ambassade par les manifestants impliqués dans les protestations. Alors que le peuple tchadien poursuit ses aspirations à une transition crédible vers la démocratie, les États-Unis appellent toutes les parties à s'abstenir de toute violence et à accorder la priorité au dialogue et au respect des droits humains des citoyens, y compris le droit à la liberté d'expression et de réunion pacifique. Washington regrette également les résultats du dialogue national tchadien et leurs conséquences pour une transition inclusive, pacifique et rapide vers un gouvernement démocratique dirigé par les civils. Les États-Unis se disent par ailleurs préoccupés par un mépris gouvernemental quant à la directive claire du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et aux engagements publics du Conseil militaire de transition selon lesquels ses leaders ne seraient pas candidats aux prochaines élections. Pour les États-Unis, un gouvernement choisi par le peuple du Tchad dans une élection libre et équitable, supervisée par des institutions indépendantes, offre le meilleur espoir pour permettre à ce pays de sortir de décennies de conflits. Et Washington de réaffirmer son soutien au peuple tchadien dans la poursuite de ses aspirations à une transition crédible et rapide vers la démocratie.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ailleurs en Afrique, de jeunes manifestants ont affronté hier en Guinée les forces de sécurité à Conakry, la capitale. Un groupe dissous par la junte au pouvoir avait appelé à manifester. Jean-Roger Bion.
Le Front national pour la défense de la Constitution, ou FNDC, qui avait appelé à la manifestation, affirme qu'une vingtaine de personnes ont été blessées, dont certaines par balles. Toujours selon ce mouvement, l'un des blessés est dans un état critique et il y a eu de nombreuses arrestations. Il n'y a eu aucune confirmation officielle de ces affirmations. Les Guinéens ont massivement répondu à l'appel à manifester, a déclaré le FNDC dans un communiqué. Alliance de partis politiques, de syndicats et de groupes civils, le FNDC a été le fer de lance des protestations contre le président Alpha Condé avant son éviction. Ce front a été dissous en août par le gouvernement nommé par la junte. La coalition avait appelé à des manifestations pacifiques à Conakry, suivies de protestations à l'échelle nationale le 26 octobre pour un retour rapide à un régime civil. Le chef de la junte, le colonel Mamadi Doumbouya, s'est engagé à rétablir un régime civil dans les 3 ans. La CDAO, après une mission le 24 septembre, a donné à la Guinée 1 mois pour proposer un nouveau calendrier sous peine de renforcer les sanctions.
En Grande-Bretagne, après la démission de Liz Truss au poste de Premier ministre, la course pour sa succession est lancée. Au maximum, 3 députés conservateurs pourront officiellement être candidats en vertu des règles présentées jeudi par le parti. Le point avec Abdulrahman Dia.
Les candidats devront avoir au moins 100 collègues sur 357 députés conservateurs pour les parrainer, a déclaré Graham Brady, un responsable de la majorité à la presse. Ces parrainages devront être recueillis d'ici lundi. Ensuite, les députés devront soit se mettre d'accord sur 2 noms que les 170 000 adhérents du parti devront départager par un vote en ligne d'ici vendredi 28 octobre, soit sur un seul nom qui entrerait alors immédiatement à Downing Street. Ce processus est bien plus sélectif que celui suivant la démission de Boris Johnson en juillet dernier, quand 8 candidats avaient pu se présenter. Parmi les personnalités qui pourraient prétendre au fauteuil figure l'ancien ministre des Finances Rishi Sunak, candidat malheureux contre Liz Truss, l'ex-ministre de l'Intérieur Suella Braverman, qui a démissionné mercredi du gouvernement, ou encore Boris Johnson, qui, selon le Times, envisage un retour au nom de l'intérêt national. Une situation que suit de près Washington. Le président Joe Biden a promis jeudi de poursuivre une étroite coopération avec le gouvernement britannique en assurant que l'amitié à long terme et la fermeté de l'alliance entre les deux pays resteraient inchangées.
L'Ukraine, frappée dans ses infrastructures et confrontée aux forces russes au sud et à l'est, s'est alarmée jeudi de l'ouverture possible d'un nouveau front au nord depuis le Bélarus, au moment où l'aide militaire présumée de Téhéran à Moscou va, selon Washington, jusqu'à la présence de militaires iraniens en Crimée qui ont aidé la Russie dans ses opérations, c'est-à-dire les attaques aux drones kamikazes sur les villes et les infrastructures ukrainiennes ces derniers jours, et notamment sur Kiev. Le président Joe Biden a battu campagne hier avec le candidat John Fetterman en Pennsylvanie, où démocrates et républicains se livrent une âpre bataille pour un siège de sénateur qui pourrait faire basculer la majorité à la Chambre haute à Mohamed Oumfa.
Joe Biden a été accueilli par John Fetterman de Pittsburgh, où il a visité un pont en cours de réparation dont il veut faire un symbole de son programme d'investissement dans les infrastructures. Il s'est rendu à Philadelphie pour une levée de fonds en compagnie de M. Fetterman. À la mi-septembre, il était crédité d'une avance de 11 points face au candidat républicain Mehmet Oz, un chirurgien réputé. Maintenant, l'écart s'est réduit à 5 points dans les derniers sondages. John Fetterman a eu en mai un AVC dont il assure s'être remis, mais qui l'a empêché de faire campagne pendant plusieurs semaines. Et à quelques jours d'un débat prévu entre les deux hommes, ses opposants mettent en doute ses capacités après une interview télévisée au cours de laquelle il a eu recours à un téléprompteur pour lire les questions qu'on lui posait en raison de problèmes auditifs. La Pennsylvanie fait partie de ces États pivots que les démocrates doivent absolument gagner pour rester maître du Sénat après le 8 novembre. À la Chambre des représentants, la lutte s'annonce encore plus difficile.
Retour à l'actualité africaine, la France a annulé jeudi le visa de circulation sur son territoire du militant nigérien de la société civile Michael Zodi. Il est réputé pour ses actions contre la présence des bases militaires occidentales, notamment françaises, au Niger. Michael Zodi a promis de se rendre aujourd'hui à l'ambassade de France pour demander les raisons de cette décision. Au Nigeria, 18 personnes, dont 2 policiers, ont été tuées dans des violences intercommunautaires entre éleveurs nomades et agriculteurs dans l'état de Benue, dans le centre du Nigeria. La Minute Éco, Nathalie Barge.
Au Togo, la nouvelle tarification à la baisse du fournisseur de mobilité Olé prend effet ce vendredi. Le kilométrage des motos est tarifé à 50 francs CFA dès les premiers kilomètres au lieu de 75 francs CFA jusqu'au 6e kilomètre, dans le souci de faciliter le transport à moindre coût. Cette baisse survient après une hausse en juillet en réponse à l'augmentation du coût des hydrocarbures. Au Nigeria, le gouvernement a ordonné aux opérateurs de télécommunications MTN et Airtel d'annuler l'augmentation de 10% récemment appliquée à certains services télécoms. La commission des communications avait approuvé les tarifs qui ont ensuite été rejetés par le conseil de la NCC. En mai dernier, les opérateurs ont proposé une augmentation de 40% du coût des appels et demandé une révision des taxes, en vain. Selon Bloomberg, le Qatar est en pourparlers pour une participation dans des sociétés publiques égyptiennes, dont le plus grand opérateur de téléphonie mobile du pays, pour 2,5 milliards de dollars. L'autorité d'investissement du Qatar devrait prendre une participation de 20% dans Vodafone Égypte. Le Caire avait rompu ses relations avec le Qatar en 2017. Les relations ont été rétablies l'an dernier dans le cadre d'une réconciliation globale impliquant aussi l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et Bahreïn.
Merci Nathalie. À présent, les sports avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
L'ASV Club, dernier qualifié pour la Ligue des Champions.
Oui, la formation congolaise s'est assurée la dernière place après avoir battu le Rai Club du Kadiogo du Burkina Faso lors d'une séance de tir au but. 4 tirs réussis contre 3, 0 à 0 sur l'ensemble des 2 matchs. V Club a été sacré champion en 1973. Il fera sa 4e apparition dans une phase de groupe en 5 saisons. Le tirage au sort pour composer les 4 groupes de 4 aura lieu en novembre au Caire. Le Rai Club du Kadiogo vise maintenant la Coupe CAF et jouera un match de barrage face à une autre formation congolaise, Saint-Éloi Loupopo, lors d'un match aller-retour en novembre avec une place de groupe à gagner.
La Tunisie fera face à la Colombie en novembre pour préparer son mondial.
Ça sera le 14 novembre prochain aux Émirats Arabes Unis. Les Aigles de Carthage se mesureront aux Colombiens. Avant cette rencontre, les Tunisiens vont effectuer un stage bloqué à Tunis à partir du 6 novembre. Au Qatar, la Tunisie est logée dans le groupe D en compagnie du Danemark, de la France et de l'Australie. Pour rappel, en plus de la Tunisie, le Maroc, le Sénégal, le Ghana et le Cameroun sont les représentants africains à cette Coupe du Monde prévue du 20 novembre au 18 décembre prochain.
Cristiano Ronaldo exclu du groupe de Manchester United.
La star portugaise n'a pas été retenue dans le groupe de Manchester United pour le match de championnat d'Angleterre contre Chelsea samedi. C'est en réaction à sa décision de partir avant la fin du match contre Tottenham, remporté mercredi 2-0. Cristiano Ronaldo, remplaçant contre les Spurs, avait quitté le stade avant la fin du match. Selon des journalistes anglais, Ronaldo, âgé de 37 ans, aurait dit à son entraîneur, Eric Ten Hag, avec lequel il entretient des relations tendues, qu'il ne souhaitait pas entrer en jeu dans les dernières minutes du match contre Tottenham. Un peu plus tard dans la soirée, la star portugaise a reconnu son erreur et tenu à faire amende honorable. Depuis la fin de la saison dernière et l'échec des Red Devils à se qualifier pour la Ligue des Champions. Ronaldo cherche à quitter le club anglais, mais son souhait de rejoindre une équipe engagée en Ligue des Champions n'a pas pu aboutir l'été dernier.
Merci, Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seguier. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En Grande-Bretagne, la première ministre Liz Truss a annoncé sa démission. Elle avait remplacé Boris Johnson début septembre, mais a déjà été contrainte à une série de revirements sur ses promesses de campagne et a dû vite changer de ministre des Finances. Pourquoi Liz Truss est-elle restée si peu de temps à la tête du gouvernement britannique? Idriss Fall a joint Khalifa Thiam, professeur de français à la retraite à Glasgow en Écosse.
Sa position était intenable parce que d'abord, je pense qu'elle a été élue par une petite minorité. Le parti conservateur traverse des moments difficiles. Il y a plusieurs factions. Il y a une faction qui est plus ou moins à l'extrême droite et il y a une faction un peu au centre et à droite. Donc là, pour juguler tout ça, c'est très difficile. Et en plus de cela, c'est le deuxième Premier ministre qu'on a élu, qu'ils ont élu, que le peuple n'a pas élu. Donc c'est une position difficile.
Maintenant, qu'est-ce qui va se passer?
Alors, côté constitutionnel, le parti conservateur peut très bien appeler ses militants, ses parlementaires, et décider entre eux de nommer un troisième Premier ministre. Alors, parce que quand on nomme ici un Premier ministre, en tout cas le parti conservateur dit toujours dans leur statut qu'un Premier ministre qui a été élu, on lui donne toujours 10 mois. Mais bon, ce sont des règles qui sont intérieures au parti conservateur. Mais là, bon, il y a l'autre côté, c'est le côté politique. Elle n'a pas un mandat démocratique. Donc c'est ça le problème en ce moment.
Donc l'Angleterre, on a l'impression qu'en dehors des problèmes socio-économiques, est en train de s'enliser dans une crise politique depuis le départ de Boris Johnson.
Tout à fait. Et le départ de Boris Johnson a été très compliqué. Il y avait beaucoup d'acrimonie dans le parti conservateur. Et puis voilà, et lui, il attend sur le côté. Il va peut-être bien revenir, on ne sait jamais. Mais en tout cas, pour l'instant, le parti travailliste demande l'organisation des élections.
D'élections anticipées, alors.
Ben oui, n'importe quel premier ministre qui va être choisi par les Tories n'a pas de mandat démocratique.
Khalifa Thiam, professeur de français à la retraite à Glasgow en Écosse. Ici aux États-Unis, certains législateurs républicains remettent en question le montant de l'aide américaine à l'Ukraine, soulignant une récession imminente, la nécessité d'une plus grande surveillance et les préoccupations concurrentes de la Chine en matière de sécurité. Les sondages prévoient la victoire du Parti républicain lors des élections de mi-mandat, ce qui lui permettrait de prendre, par exemple, le contrôle de la Chambre des représentants. Comment une éventuelle nouvelle configuration politique pourrait-elle affecter ensuite le soutien américain à l'Ukraine? Reportage de Patsy Udakuswara, correspondante de la VOA à la Maison-Blanche. Le récit de Eric Manirakidze.
Les Ukrainiens sont encore sous le choc des attaques de drones et de missiles sur la capitale Kiev et d'autres villes. Ces frappes ont détruit des bâtiments et des infrastructures civiles. Olena Chuliak est la chef du Parti serviteur du peuple de l'Ukraine.
Notre peuple meurt tous les jours. Chaque jour, nous défendons la démocratie dans le monde entier. Vous pouvez voir ce qui se passe quotidiennement avec le bombardement et la destruction de nos maisons et le meurtre de notre peuple. Vous ne pouvez pas diminuer le soutien, seulement l'augmenter.
Olena Chuliak a déclaré à VOA que les Ukrainiens suivent de près la politique américaine avant les élections de mi-mandat en novembre, au cours desquelles les démocrates pourraient perdre leur mince majorité au Congrès. Si les républicains l'emportent, la Chambre des représentants pourrait s'opposer à une aide accrue à Kiev. Mardi, le chef de la minorité de la Chambre, Kevin McCarthy, a déclaré à Punchbowl News qu'avec la récession qui s'annonce, les Américains ne vont pas signer un chèque en blanc à l'Ukraine. D'autres législateurs républicains ont également déclaré que les États-Unis devraient se concentrer davantage sur la menace du renforcement militaire chinois. La porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre, répond à ces préoccupations.
Nous allons continuer à travailler avec le Congrès et à suivre ses conversations sur ses efforts et à soutenir l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra. Nous allons tenir cette promesse que nous faisons aux courageux Ukrainiens qui se battent chaque jour pour leur liberté et leur démocratie.
Selon les observateurs, avec la montée des tendances isolationnistes au sein du Parti républicain, certains craignent que l'aide à l'Ukraine diminue, notamment pour les besoins humanitaires et économiques. En revanche, l'aide américaine à la sécurité suscite moins d'inquiétude. C'est l'avis de Christine Berizna, chargée de mission pour la politique de sécurité de défense au German Marshall Fund of the United States.
Si vous pensez aux intérêts de la droite en général à soutenir le complexe militaro-industriel et l'industrie aux États-Unis, eh bien, quel est le besoin désespéré des Européens en ce moment en Ukraine et surtout le flanc oriental de l'OTAN? C'est le besoin de systèmes d'armes, depuis les munitions jusqu'aux systèmes d'armes très sophistiqués comme les HIMARS, les drones. Et les budgets de défense augmentent de manière si significative en Europe que l'augmentation des dépenses de défense dépasse les sources disponibles.
Les États-Unis ont autorisé plus de 60 milliards de dollars d'aide à l'Ukraine, dont plus de 17 milliards de dollars d'aide à la sécurité ont été versés depuis le début de la guerre. En mai, le Sénat a voté pour plus de 40 milliards de dollars de nouvelles aides militaires et humanitaires. Certains républicains ont voté contre.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Guinée, des heurts ont mis aux prises des jeunes et les forces de sécurité ce jeudi dans différents quartiers de la banlieue de Conakry. Le Front national pour la défense de la Constitution, officiellement dissous par la junte, a appelé à manifester pacifiquement à Conakry, puis le 26 octobre dans tout le pays. Il réclame un retour rapide des civils au pouvoir et la libération des prisonniers détenus, selon lui, pour des raisons politiques. Yacouba Ouédraogo a joint à Conakry Abdoulaye Oumoussou, chargé de communication du Front national pour la défense de la Constitution FNDC.
Nous avons appelé à manifester pour dénoncer la confiscation du pouvoir par la junte militaire, pour dénoncer le musellement des citoyens de démocratie, la restriction de l'espace civique, mais également pour l'ouverture d'un dialogue franc et sincère conformément à l'article 77 de la Charte de la Transition. Et vous savez que depuis un certain moment, la junte militaire Sochtine a confisqué les libertés publiques, elle a arrêté le coordinateur national du FNDC, elle a arrêté le responsable des opérations du FNDC, elle a également arrêté plusieurs autres personnalités politiques mais aussi sociales, tout simplement parce que ces personnes ont demandé à ce que des conditions soient créées pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Donc elles n'aiment pas voir les voix dissonantes et ces voix dissonantes sont muselées.
Quel bilan justement faites-vous de la manifestation? Il y a une répression.
Il y a une répression féroce qui est en cours, d'autant plus qu'au-delà des forces de défense et de sécurité qui ont été déployées, il y a l'armée également qui est venue en appoint, notamment les unités du bataillon des troupes aéroportées BATA, venant du camp Yaya Diallo, mais aussi les groupements du JIR, le groupement d'intervention rapide. Ce sont des unités d'élite de l'armée qui n'ont rien à faire dans des manifestations, mais malheureusement aujourd'hui qui se retrouvent dans les rues de Conakry pour embastiller les populations. Et c'est ce que nous vivons au temps de cette junte militaire au pouvoir. Parce qu'on veut faire taire toutes les voix dissonantes. On empêche l'expression plurielle des populations qui ne voient pas cette transition de la même manière que le CNRD.
Est-ce que vous n'avez pas eu un autre cadre d'expression ou de revendication face au gouvernement?
Cette junte militaire au pouvoir est là depuis 13 mois. 13 mois, c'est suffisant pour nous d'observer. Nous avons fait des propositions de chronogramme. Nous avons fait des plaidoyers auprès des leaders religieux, coutumiers, mais aussi des sages de ce pays pour qu'ils puissent expliquer à cette junte militaire que la voie la plus normale, c'est d'écouter les expressions plurielles des populations qui se sont battues pendant ces dernières années pour que la Guinée soit un pays démocratique et vertueux. Et l'essentiel pour nous, c'est que la junte permette des conditions pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel dans le pays. Malheureusement, elle ne le permet pas jusque-là. Elle s'obstine à confisquer le pouvoir et par la force des baïonnettes, elle va s'imposer en violant la charte, la transition qu'elle-même a mise en place.
Aux yeux de la junte au pouvoir, vous êtes dissous et donc vous n'existez pas. Je parle du Front National de Défense de la Constitution. Comment vous réagissez à cela?
Nous existons avant le CNRD, nous allons exister après le CNRD. Nous trouvons notre légitimité par la réponse des populations à nos appels à la protestation, mais aussi par l'expression que nous portons, qui est celle de la voix des citoyens à la base, qui aspirent à un pays démocratique et vertueux, et nous pensons que nous sommes les porte-voix de ces sentiments.
Abdoulaye Oumoussou, chargé de communication du Front National pour la Défense de la Constitution guinéenne. Le Kenya veut renégocier une dette de plusieurs milliards de dollars accordée par la Chine pour la construction d'une importante ligne ferroviaire. Le nouveau ministre des Transports a assuré les législateurs que le Kenya est à jour dans ses paiements, mais ne peut pas continuer avec le calendrier actuel de 20 ans. De Nairobi, un reportage de Mohamed Youssouf, récit de Michel Joseph.
Le ministre des Transports du Kenya estime que les conditions actuelles de remboursement des prêts chinois sont intenables. Répondant aux questions d'une commission parlementaire, Kipchumba Murkomen a dit que son pays devra demander un délai de paiement plus long pour les prêts utilisés pour construire ce que l'on appelle le chemin de fer à écartement normal.
Une décision stratégique a été prise à l'époque. Nous investissons dans l'infrastructure et le gouvernement du Kenya paie dans les 15 à 20 ans. Aujourd'hui, nous sommes étouffés par cette dette car nous payons 80 millions de dollars par an. Nous sommes prêts à continuer à payer le montant fixé, mais nous devrions renégocier la durée de paiement sur 50 ans.
Le Kenya a emprunté 5 milliards de dollars pour construire la ligne ferroviaire entre le port de Mombasa et la ville de Naivasha, à l'ouest de Nairobi. Le chemin de fer a été ouvert au public en 2017 et le gouvernement a obligé les entreprises à transporter des marchandises par la voie ferrée pour aider à rembourser le prêt. Surtout que le chemin de fer perd de l'argent.
Il devient impossible de rembourser cette dette par les revenus qui proviennent du chemin de fer. Et même dans 50 ans, il ne sera pas rentable si vous chargez le prêt au chemin de fer.
Le précédent gouvernement est accusé d'avoir trop emprunté pour financer des projets, ce qui a également augmenté la corruption. La Chine a aussi financé une voie rapide de 27 km à Nairobi, pour un coût de 734 millions de dollars. La plupart des accords entre le Kenya et la Chine sont opaques. L'accord pour la construction des chemins de fer est resté secret malgré une décision de justice exigeant qu'il soit rendu public. L'économiste kényan Gerishon Ikara affirme que la mauvaise gestion de l'argent et la corruption sont à blâmer pour les problèmes de la dette kényane.
Nous ne permettons pas que l'argent emprunté soit utilisé strictement pour le projet. Parfois, il y a beaucoup de corruption dans les projets par les appels d'offres pour les projets. Nous pourrions avoir beaucoup plus de kilomètres, mais l'erreur a été commise. La corruption a un impact négatif sur le coût total des projets dans ce pays.
Gerishon Ikara affirme également que les bonnes relations entre le Kenya et la Chine pourraient conduire à un paiement plus étalé de la dette. La Chine détient un tiers de la dette extérieure du Kenya. Le nouveau gouvernement, dirigé par le président William Ruto, a déclaré qu'il réduirait sa dépendance à l'égard des prêts étrangers et empruntera davantage sur le marché intérieur.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Sedouya, à la mise en onde de Lionel Ronanira Gaïma. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24.